Chers frères et sœurs et chers amis, le thème que nous allons développer est quelque chose de merveilleux. C'est la nativité de Jésus-Christ qui nous apporte pour nous tous le plus grand bonheur, c'est-à-dire la possibilité du salut pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit « Vous trouverez un nouveau-né ». Évangile de Saint-Luc, chapitre 2, verset 12. Oui, la naissance de Jésus-Christ doit être marquée chaque année, et ceci avec tout notre cœur, par une grâce et un effort de renouveau dans notre vie chrétienne et religieuse. Les principaux événements de la vie terrestre de Jésus, de la naissance à la résurrection, bien que vécus par lui une fois pour toutes, ne cessent de se reproduire d'une manière mystérieuse, mais néanmoins réelle et efficace, et ceci dans la croissance de son corps mystique. Noël est donc pour nous plus que la commémoration, si solennelle et vénérable soit-elle, d'un événement historique passé, elle est un moment de notre vie de membre de Christ, un moment où quelque chose de vraiment vivant, de réel, se passera, et ceci au fond de notre cœur, entre Jésus-Christ et nous. Et bien entendu, à condition que nous nous prêtions de tout cœur. Le monde souffre, chers amis, dans l'angoisse et dans l'attente de la paix entre les hommes. C'est avant tout à cette réalité que nous serions enclins à penser. Mais Jésus-Christ nous invite à penser aujourd'hui à la paix d'une autre manière, dans les racines profondes qu'elle doit avoir au fond du cœur de chaque homme. L'orgueil, le désir de puissance, de domination et de richesse sont les sentiments d'où sortent les projets de guerre et de destruction aveugle. Jésus naît tout petit et sans défense sur la route comme un peu une personne déplacée, et sa présence, loin d'amener la paix, semble susciter la guerre et sera à l'origine d'une persécution sanglante qui va frapper des tout petits enfants et faire pleurer des mères. Jésus tout petit, dans son impuissance, sera mis à l'abri par la fuite et l'exil. Cependant, avec Jésus est né celui qui seul peut rendre les cœurs pacifiques, si nous savons le recevoir. Et c'est au-dedans de vous-même que le changement doit s'effectuer, et pour le moment, il ne s'agit pas des autres, mais il s'agit de vous-même. Loyalement, que chacun d'entre vous s'agenouille en face du tout petit qui vient de naître et qu'il se demande s'il est en mesure de recevoir en son cœur, sans le faire souffrir, ce message vivant de Dieu qui représente ce tout petit. Oui, Dieu avec nous, c'est-à-dire l'Emmanuel. Et sans que nous y prenions suffisamment garde, il est une parole prononcée plus tard par Jésus et qui nous condamne, car peu sont capables de la recevoir et de l'accomplir, cette parole-là. « Laissez venir à moi, dit-il, les petits-enfants. ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petits enfants n'y entrera pas. » Saint Luc, chapitre 18, versets 16 à 17. Et cette parole est terrible, plus que les malédictions contre les riches et les pharisiens, car elle est encore plus exigeante. Jésus-Christ nous ferme la porte si nous n'allons pas à lui comme de petits enfants. Merci Seigneur. Notre vie est dénuée de tout sens si elle ne va pas jusqu'au bout des exigences de l'Évangile, si nous n'entrons pas dans ce royaume de vérité et de vie que représente Jésus-Christ, donné au monde en son Église, le corps de Christ. Apparemment, on peut faire beaucoup en œuvre, en activité, en dévouement, en parole, et cela jusqu'au sacrifice de soi, sans avoir les dispositions de cœur et d'âme d'un tout petit enfant. Oui, apparemment, on peut être ainsi uni à l'Église, corps de Christ, à une forme de vie religieuse, à l'activité apostolique, mais serons-nous vraiment dans le royaume de Dieu? Serons-nous à Christ, corps et âme, dans un total amour? Quand ce jour de Noël, chers frères et sœurs, Jésus-Christ, qui ne veut pas encore posséder les moyens de convaincre les hommes par la force des discours, vous fasse entendre jusqu'au fond du cœur cette parole de l'Évangile. Je vous le répète, cette parole est terrible parce que la plupart des hommes ne la prennent pas au sérieux, même des pasteurs, prêtres, etc., ou bien ils sont dans l'illusion de croire qu'elle ne s'adresse pas à eux. Quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petits enfants, je le dis bien, eh bien, n'y entrera pas. Il ne s'agit pas de ressentir une douceur, une tendresse passagère, de sentiments à l'égard de l'enfant Dieu, mais il s'agit d'un amour et d'une purification autrement profonde. Dieu exige de nous l'humilité, la simplicité, qui seuls nous feront piétiner notre amour-propre, l'attache à nos idées personnelles, notre personnalité orgueilleuse et égoïste, pour nous avouer vaincus sans rien retenir pour nous et prêts à tout recevoir dans l'obéissance. Oui, le royaume de Dieu se reçoit dans l'humble docilité à la foi, dans l'humble obéissance, et ceci afin de tout posséder d'une autre manière, et ceci dans le royaume de Jésus-Christ. Et c'est cela, et pas autre chose, que Jésus-Christ tout petit attend de vous, de nous, à Noël. Chers amis, voyez-vous, la naissance de Jésus est en même temps celle de notre foi. N'oublions jamais cela. Je répète, la naissance de Jésus est en même temps celle de notre foi. Nous croyons en cet enfant, fils de Dieu et de Marie. Il commence d'être et il est là tout petit dans la faiblesse et la pauvreté, qui seront aussi la faiblesse et la pauvreté de notre foi. La science et la foi se sont heurtées au siècle dernier. Là, ce fut la tentation de la raison humaine, refusant le mystère de la révélation. Et c'est encore au nom d'une science qu'on nous refuse le droit naturel de croire en Dieu. La raison sûre d'elle-même s'oppose à la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. Et cette sagesse est celle d'un enfant, d'un petit enfant ou d'un homme blessé à mort sur un instrument de supplice. La nativité et la mort, les mystères qui sont au debout de notre vie, de la vie de tout homme, de toute femme. L'homme de demain, celui qui est aujourd'hui le technicien d'une nouvelle civilisation, serait-il incapable de s'agenouiller devant ce petit enfant qui nous est né pour l'adorer comme un dieu? Au fond, la grande réticence de l'homme, c'est l'orgueil de l'esprit. Et cette sorte de fierté de l'adulte qui refuse d'être capable de faiblesse. Nous sommes faibles, oui, très faibles, et petits devant Dieu et devant notre destinée éternelle. Nous ne prenons une apparence de force et de puissance qu'en limitant l'horizon de la vie aux limites terrestres, et pas plus. Voyez-vous, l'événement de la naissance de l'enfant tout petit, un tout petit être entre les bras de sa mère, dans la banalité assez misérable d'un voyage au milieu d'une foule en déplacement pour raison administrative, cet événement signifie que désormais, aucun homme, aucune femme ne pourra croire en Dieu sans que son esprit et son cœur ne trouve sur le chemin de la foi un tout petit qui est nommé Jésus. Aussi, celui qui m'a vu, c'est la Bible qui dit cela, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Trop raisonnable, l'esprit de l'homme cherchera à éviter cet enfant et son cœur beaucoup trop fier, aura tendance à se détourner de lui. Il est bien difficile d'aimer un tout petit. Et en quoi, d'ailleurs, cela pourrait-il servir au monde en marche? On a maintes fois reproché aux chrétiens fervents un certain infantilisme d'esprit ou de sensibilité. Notre génération a cette attitude en horreur. En effet, notre génération, croyez-moi, a vraiment une telle attitude en horreur. Et en plus, elle a raison. Mais au lieu de chercher, chers amis, à trouver le vrai chemin, qui est ardu, étroit, exigeant, vers tout le mystère chrétien, dans la loyauté de l'humilité devant Dieu, eh bien, on rationalise l'attitude religieuse. C'est ce qu'on fait. Et la véritable perfection d'un chrétien n'est pas chose facile à définir. Elle est un mystère toujours inachevé, dont seul le cœur du Christ a jamais possédé la plénitude. Bien sûr, nous devons être des hommes adultes. Oui, C'est vrai, nous devons avoir un cœur fort, à l'intelligence lucide, largement ouvert sur le problème du monde. Mais nous devons aussi avoir l'intelligence ouverte sur le mystère de Dieu et garder un cœur dilaté par la croix et préparé par elle à répondre à un amour incompréhensible. Comment, chers amis, concilier tout cela? Eh bien, cela est absolument possible avec l'aide de l'Esprit Saint. Oui, chers amis, un Sauveur vous est né, nous dit Saint Luc chapitre 2, verset 11. Et je célèbre la fête de Noël. Je suis uni à tous dans ce mystère et je prie le Seigneur de nous accorder la grâce de devenir enfants de Dieu totalement et dans un complet renouvellement de notre cœur et de notre esprit. Devenir comme un petit enfant devant Dieu, c'est une exigence toujours nouvelle, car nous ne le serons totalement qu'au jour où nous deviendrons semblables à lui dans la vision. En attendant, il faut nous laisser transformer par Jésus-Christ, oui, et déjà par Jésus enfant, tout petit, et par Jésus blessé plus tard, mourant à la croix, et il nous purifie de son sang précieux. N'oublions jamais cela, c'est grâce à la croix que nous pouvons être purifiés par son sang précieux. Avez-vous vraiment compris que tout le sang répandu de Jésus-Christ ne pouvait nous rendre enfants de Dieu que à la condition que nous nous laissions purifier pour aller recevoir la rédemption sur le calvaire? Il faut d'abord passer voir l'enfant Jésus à Bethléem. Jésus est sauveur dès l'instant où Marie nous l'a montré et donné tout petit. Il nous a été donné par sa mère Marie. Et il est devenu notre sauveur parce qu'il nous oblige pour l'atteindre, pour atteindre Christ, à nous dépouiller de toute façade, de toute mise en garde et de mise en scène. Car les mots sont creux et inutiles devant un petit enfant. Et nous discutons, nous avons envie de discuter, de raisonner notre don, de trouver des excuses ou des détours à la question que Dieu nous pose. Avec un petit enfant, ça devient impossible. Il ne répondra pas. Et si nous ne savons pas livrer dans la sincérité le fond de nous-mêmes, eh bien nous n'aurons aucune communication avec lui. Jésus enfant nous oblige ou à nous détourner tout à fait de lui si nous passons devant lui avec l'amour propre d'un homme raisonneur ou à nous approcher de lui avec une âme d'enfant sans résistance intérieure et prêt à accueillir le salut. Et là, nous sommes enfin sauvés. Jésus tout petit nous oblige à devenir intérieurement tel que nous puissions être sauvés, être purifiés et transformés par le sang qu'il répandra pour nous. Jésus-Christ attend, il nous attend en silence et les appels à l'amour et à l'enseignement des béatitudes se situent entre le silence de Jésus-Christ à la crèche, où il ne peut qu'attendre sans réponse, et l'immobilité de l'agonie sur la croix, où il ne peut aussi que nous attendre. Je dis encore une fois, où il ne peut aussi que nous attendre. Et son sang est répandu pour la rémission d'un grand nombre. Combien le reçoivent-ils ? Avons-nous reçu notre rédemption ? Chers amis, n'est-ce pas tous les jours à faire ? Ne sommes-nous pas trop grands pour être sauvés ? Nous jugeons, nous voulons agir en homme raisonnable et construire notre perfection à force de volonté, alors que nous sommes impurs devant sa face, oui, impurs de tout l'amour propre qui n'a pas capitulé devant l'enfant qu'est Dieu le nouveau-né. Comment pouvons-nous donc être sauvés sans recevoir notre rédemption? Car nous sommes impurs, et ceci jusqu'à ce que nous ayons reçu sa pureté à lui. Jésus, tout petit, nous fait mesurer à quel point nous ne sommes pas purs, et il nous prépare ainsi à recevoir sa propre pureté qui nous justifie par son sang précieux. La Bible dit « Je vous annonce une grande joie ». Saint Luc chapitre 2 verset 10. Ce qui est surprenant, c'est que plus Noël est extérieurement célébré et son caractère religieux semble s'estomper et même disparaître, eh bien Noël est devenu une fête carrément profane, célébrée même par ceux qui ne croient pas à la présence actuelle de Dieu, née il y a plus de 20 siècles, mais toujours petit enfant vivant pour nous. La véritable lumière et la vraie paix de la nativité peut seulement, en quelque sorte, filtrer au fond des cœurs humbles et croyants. Elle peut vraiment atteindre que ceux qui sont humbles de cœur. Et je comprends mieux pourquoi ce ne fut qu'une étoile qui a conduit les mages à un enfant Dieu et roi, mais si bien caché dans l'ordinaire, et la pauvreté et la vie qu'aucun signe visible à tous ne le désignait comme tel à la foule au milieu de laquelle il avait vu le jour. Malheureusement, ces deux conceptions de la vie écartèlent un bien grand nombre de chrétiens parmi les plus généreux, dans la mesure où ils craignent, en concevant trop leur vie humaine comme un passage, une épreuve, une vie provisoire, de ne pas se livrer avec une conviction suffisante aux tâches de la cité terrestre et aux exigences de l'amour fraternel. Il faut tout de même, oui, absolument, aboutir à une conviction, faire de notre existence présente une attente de l'autre vie, ou alors bien vivre pleinement ces courtes années sans attendre rien d'autre dans une plénitude totale d'épanouissement terrestre et en attachant une extrême importance à tout ce que fait l'humanité pour aménager la terre et s'y installer en maître souverain. Je n'ai pas pu m'empêcher, en cette nativité de notre petit roi, de songer à ce problème qui nous intéresse au premier chef, comme il intéresse les chrétiens et tous ceux qu'une tâche apostolique oblige à être témoins d'un autre monde, celui qui dure éternellement, et d'une autre condition humaine qu'aucun témoin parmi nous n'a jamais encore expérimenté. Au fond, nous n'avons pas à choisir, car nous sommes obligés par les réalités de la foi et les conséquences de l'incarnation à croire à ces deux mondes. Oui, cette vie n'est qu'une préparation, car la terre passera, et toutes les images dont Dieu a parsemé les Écritures saintes pour nous faire comprendre que la vie de l'homme sur terre n'est qu'un souffle, c'est qu'un instant, comme une épreuve, et sont un enseignement de la souveraine sagesse. Je répète, au fond, nous n'avons pas à choisir. Car voyez-vous, nous sommes obligés, par les réalités de la foi et les conséquences de l'incarnation, à croire à ces deux mondes. Oui, cette vie n'est qu'une préparation et pas autre chose. Car voyez-vous, la terre passera. Et toutes les images dont Dieu a parsemé les saintes Écritures pour nous faire comprendre que la vie de l'homme sur terre n'est qu'un souffle, c'est seulement un instant par rapport à l'éternité, comme une épreuve, et sont un enseignement de la souveraine sagesse. Et c'est pourquoi Bethléem n'est pas un achèvement mis en pleine lumière, mais une espérance de vie cachée que seule une étoile indique aux esprits et aux cœurs attentifs. Il n'y a pas d'éclatante lumière à Bethléem, mais une lueur qui filtre. Et c'est pourquoi aussi il n'y aura jamais de solution satisfaisante pour l'humanité sur la terre. Et cependant, il nous faut vivre sur la terre dans l'absolu des exigences de l'amour. Le mode misérable, douloureux et mortel de la vie humaine sur la terre est quelque chose de relatif, mais l'homme lui-même est déjà un absolu et il est plus grand que la condition qui lui est faite, et ceci par l'amour que nous devons donner au moindre de nos frères et sœurs. Et nous devons déjà vivre dans l'absolu du royaume éternel, ainsi commencé sur terre, et qui ne finira pas. Oui, nous ne pouvons vivre dans l'attente lorsqu'il s'agit d'aimer, car la seule réalité qui ne changera pas, la seule réalité qui est déjà éternelle, est celle de l'amour qui nous a été donné par le Christ Jésus. Le vrai chrétien, le vrai, celui qui croit de tout son cœur, celui qui croit à tout le mystère du Christ, il doit regarder sa vie terrestre bien en face, et ceci pour en découvrir le caractère très précaire, un passager qui vit en pèlerin et qui ne s'installe pas mais qui aspire au terme de son pèlerinage cet aspect éternel de la vie, aspect déjà commencé et que la mort n'interrompra pas. Et quand nous aimons notre frère et sœur, eh bien nous sommes déjà sur un plan d'éternité. Si notre amour pour lui, pour elle, est un reflet de celui de Dieu, et que nous l'aimons comme un être destiné, comme nous, exactement comme nous, à l'éternité. Je répète, quand nous aimons notre frère et sœur, eh bien, nous sommes en quelque sorte déjà sur un plan d'éternité. Et ceci, si notre amour pour lui et pour elle est un reflet de celui de Dieu, et que nous l'aimons comme un être destiné, exactement comme nous, à l'éternité. Mais rien ne sera jamais achevé ici-bas, ça c'est clair. Même dans la société la plus juste et la plus évoluée, car cette société ne sera jamais capable de procurer à ses membres que des biens terrestres très fragiles et même souvent décevants. Et au sein de la souffrance des trop pauvres, comme au sein de l'angoisse morale de ceux qui sont trop installés, il y aura toujours place pour la lueur de l'étoile de Bethléem. Elle ne nous conduira qu'à un tout petit enfant fragile, silencieux et impuissant, mais qui porte en lui-même une plénitude de vie à laquelle nous ne pourrons participer qu'au terme de notre route dans le renoncement et l'obscurité d'une foi parfaite et non pas une foi qui vacille, mais qui est fondée sur le roc, sur du solide. Ensuite, la Bible nous dit « Et ceci vous servira de signe » selon Saint Luc chapitre 2, verset 12. Oui, chers amis, il est encore pour nous un autre motif d'aimer Noël. C'est le fait que Jésus, nous en sommes intimement persuadés, il nous appelle à collaborer d'une manière particulièrement étroite au signe de son apparition dans le monde. La nativité, c'est la première fois que Jésus-Christ apparaît dans le monde et la première fois déjà qu'il est soumis visiblement en son être de petit enfant d'homme à toutes les circonstances de temps, de lieu, de manière, afin à tous les asservissements de la vie sur la terre, non seulement pour les subir comme nous, mais encore pour s'en servir comme d'un langage d'autant plus éloquent que tout petit, il ne peut nous parler autrement que par sa manière d'être. Jésus-Christ apparaît dans le monde sans prévenir personne, sans faire connaître à ses voisins ce qu'il est. S'il était venu au monde dans sa maison de Nazareth, toute sa parenté se serait réjouie de l'événement avec les voisins et les habitants du bourg. On l'aurait fêté. Ce faisant, Jésus se serait vraiment comporté comme un véritable petit Nazaréen, mais il aurait été comme confisqué par sa famille de la terre et par sa patrie terrestre. Bien au contraire, il naît en voyage, vous le savez. Il est né en voyage, au milieu d'une foule anonyme, Ainsi, il appartient bien à tous et il vient discrètement sans faire aucun bruit. Dieu aurait certes pu faire davantage d'efforts pour diffuser la nouvelle. Mais la preuve en est qu'il n'a pas oublié de mobiliser tous les anges du ciel pour se contenter d'amener quelques pauvres bergers à la crèche. Et c'est la preuve qu'il aurait pu facilement y mener tout Jérusalem et tous les justes israélites au cœur pur et droit, adorateurs de Dieu et vivant dans l'espérance de leur Messie. Et ils étaient tout de même nombreux, tous ses vrais amis, dans le pays de Judée et de Galilée. Il est donc évident que Dieu ne veut pas imposer son Fils Jésus-Christ. Il faut qu'on vienne à lui. C'est toute la différence. Il faut qu'on le cherche, qu'on le découvre. Même les bergers et les mages, prévenus cependant directement par Dieu, avaient tout de même dû chercher à l'aide d'un signe qui ne faisait que suggérer sans qu'ils aient été conduits facilement et directement à la crèche. Les bergers ont dû visiter bien des maisons et des étables avant de trouver le petit enveloppé de l'ange. Quant aux mages, ils avaient dû faire preuve d'initiative pour découvrir par des moyens normaux le lieu de la naissance du jeune roi d'Israël. Juste et infiniment discret, il attend, et cette manière d'apparaître aurait eu de quoi nous impatienter si, voyez-vous, la preuve n'était faite depuis des siècles que les hommes ont trouvé dans cette discrétion un véritable signe de Dieu. Et ce signe de faiblesse qui attire malgré eux les hommes, les fait se rendre, s'avouer vaincus, sans que jamais Jésus se soit imposé. Il s'est jamais imposé à eux par autre chose qu'une certaine présence qui attend, sollicite et démontre le ciel de Dieu par une humble manière d'être, oui, une manière toute humble qui donne l'espérance et qui donne l'humilité, qui donne la paix et l'amour, sans qu'on sache trop comment. Et Dieu est donc un maître qui sait s'y prendre pour nous parler en utilisant les choses de la terre, ces êtres animés ou inanimés et les événements de l'histoire des hommes. Ce n'est donc pas une vaine imitation extérieure et sentimentale, mais c'est la réalité prolongée et vivante de la vie même de Jésus-Christ qui veut ainsi prolonger ses propres états de vie dans ses membres. Ce n'est pas seulement son sacrifice et sa croix qui méritent d'être plongés ou surtout prolongés jusqu'à nous, excusez-moi. Et je répète, ce n'est pas seulement son sacrifice et sa croix qui méritent d'être prolongés jusqu'à nous, mais tout ce qui revêtait un sens dans sa vie terrestre, tout ce qui a été vécu pour parler aux hommes à travers un état et une manière d'être, et tout cela doit donc continuer à être vécu dans son Église pour que toutes les générations d'hommes puisse avoir parmi elles le signe de l'apparition de Jésus-Christ à Bethléem. Donc, une église doit être telle que Jésus y apparaisse de nouveau aux hommes, avec les mêmes signes, la même discrétion, la même absence de proclamation et de contrainte des libertés qui est propre de Bethléem. Bethléem est un signe qui mène à Dieu. Et il est tellement discret, ce signe, que seuls peuvent le remarquer et aller vers Dieu à travers lui. Les hommes que Dieu a lui-même avertis dans leur cœur par le Saint-Esprit. Ce fut donc ainsi que Jésus-Christ apparut aux hommes, et c'est donc ainsi aussi qu'il continue d'apparaître à un très grand nombre. Toutes les circonstances historiques de la nativité à Bethléem ont comme valeur d'événements prophétiques, parce que ils font donc connaître Dieu dans le silence des paroles. Je répète, toutes les circonstances qui sont historiques concernant la nativité à Bethléem ont comme valeur d'événements prophétiques. Donc, une valeur inestimable parce que ils font en quelque sorte connaître Dieu dans le silence des paroles. Ils parlent en quelque sorte en silence pour toutes les générations, et ceci sans se presser d'être entendu dans l'immédiat. Jésus-Christ a le temps et les hommes attendent, mais au moins ils sont libres devant l'appel de l'amour par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le libre choix. Chers amis, je voudrais, avant de terminer par la prière, vous donner quelques paroles de consolation et qui ont exactement à faire avec ce que nous venons de dire et d'entendre. Réjouis-toi tous les jours de nouveau comme un enfant à l'approche de Noël. Oui, réjouis-toi des surprises que l'amour du Père Céleste a préparées pour toi. Son plus grand cadeau, son Fils, devenant notre frère, en est le sceau. Le Père n'envisage en ce jour, dans son amour, que le bien suprême pour ta vie entière. Fixe donc ton regard sur lui dans cette espérance, et tu apprendras alors à être reconnaissant et heureux, et ceci sans cesse, comblé par l'amour de Dieu. Prends courage, car le Père Céleste a envoyé son Fils unique qui s'est écrié « J'ai vaincu le monde. J'ai triomphé de ce monde qui te cause tant de problèmes et de craintes. Quelqu'un est venu sur terre pour en avoir raison, c'est Jésus-Christ. Dieu le Père l'a envoyé pour toi aussi, pour qu'il mette également fin aux déboires de ton univers si limité. Apporte-lui donc, afin qu'il agisse de façon à t'émerveiller, apporte-lui tout, et il te délivrera et te donnera la paix intérieure. Et chers amis, nous allons maintenant prier ensemble. Aussi, vous pouvez prier, répéter les mots que je vais vous dire. Vous pouvez les répéter dans votre cœur ou à haute voix, comme vous voulez. Je tâcherai pour cela de dire les paroles qui me viennent dans le cœur lentement, pour que vous ayez le temps de bien les répéter dans votre cœur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici dans un esprit d'adoration et de prière. Nous voici devant ton insondable, ton inexprimable amour. Tu ne demeures point caché, caché par-delà les cieux, par-delà les astres, oh non. Tu es auprès de nous, autour de nous, en ton Fils, et tu viens dans le monde chercher ceux qui sont perdus. Tu viens nous consoler, consoler tous ceux qui pleurent, enrichir les pauvres, fortifier ceux qui défaillent, rendre la joie aux pécheurs avec le pardon. Ô que nous sachions accueillir ta grâce et nous ouvrir à ton amour. Que Noël soit véritablement une source de bénédiction pour chaque maison, pour chaque homme, jeune ou vieux, pauvre ou riche, puissant ou misérable, mais avant tout pour les solitaires, les abandonnés, les fatigués et les chargés, ceux qui plient et ceux qui saignent. Que nous vivions dans le sérieux cette fête de la nativité et qu'elle nous soit en bénédiction maintenant et à toujours. Ô Seigneur Dieu, Père éternel, manifeste-toi à nous en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Il vous aime de tout son cœur. Il vous aime réellement. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et j'espère que vous aurez à cœur de continuer d'écouter la Sainte Parole, non pas la nôtre, mais celle qui vient de la Sainte Bible, de sa Sainte Parole, celle de Dieu et de son Christ, Jésus-Christ. Amen.